La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Dora Nana aujourd'hui.
Oui, et aujourd'hui Dora, on va vous proposer une solution pour les particuliers. Ils peuvent louer leur appartement à des entreprises.
Et ça s'appelle Office Riders. C'est un site en fait qui met en relation des particuliers donc, qui veulent en effet louer leurs appartements, leurs maisons, quelques heures avec des entreprises qui, elles, de leur côté, elles souhaitent organiser des réunions qui changent un peu de l'ordinaire. Enfin, c'est une bonne façon, on va dire, de dépoussiérer la bonne réunion de travail au 7e étage entre quatre murs. Hein, tu vois ce que je veux dire ?
Ça sent le vécu.
Voilà, en trois clics, tout simplement, bah, les entreprises elles peuvent louer chez des particuliers des espaces qui sont sous-exploités. Bonjour Florian.
Bonjour.
Délifère. Merci d'être avec nous.
Alors
merci
vous êtes
justement le fondateur d'Office Riders. Alors racontez-moi, racontez-nous, ça fonctionne comment ? Imaginons que je suis manager et que je veux organiser une réunion, je vais sur votre site et là on propose des lieux. En gros, c'est un peu, j'ai l'impression comme ça que c'est le Airbnb pour la réunion.
Exactement. Alors c'est extrêmement simple et ça fonctionne un petit peu comme Airbnb. Vous allez sur le site, vous allez trouver des espaces tous différents, tous uniques. Finalement, ils sont vraiment très singuliers. Vous allez aller chez des particuliers, peut-être chez des artistes. On a aussi des galeries d'art, en fait des espaces sous-utilisés qu'on va mettre à profit des professionnels et des entreprises en journée pour des réunions, du coworking, des petits événements, éventuellement des workshops, de la formation, mais aussi de la production. Donc toutes les activités professionnelles nomades, que ce soit pour les freelances, les startups, mais aussi et de plus en plus les PME, les grands groupes.
Alors c'est qui les autres comme ça qui mettent à disposition leurs biens ? Parce que j'imagine qu'il y a des critères, vous ne sélectionnez pas n'importe qui. Je ne peux pas demain mettre mon petit 60 mètres carrés dans Paris,
ou pourquoi pas ?
Alors on a une très grande diversité d'espace du coup sur le site. À partir de 20 mètres carrés, on peut avoir un espace
petit studio,
qui est propice. Ça peut être pour une réunion de 5 à 10 personnes par exemple. On a fait le constat de 30 millions de mètres carrés quand même sous-utilisés en journée à Paris.
Ouais,
plus de la moitié des foyers qui sont abandonnés alors que l'immobilier effectivement, on sait que le coût est très élevé. On a trouvé ça tout à fait évident en fait au départ quand on a pris conscience de ce gâchis d'espace, de le recycler et de le rendre du coup utile à tous ces professionnels qui ont de plus en plus des comportements nomades et qui ont besoin de flexibilité et qui vont trouver dans ces espaces des espaces vraiment humanisés permettant aussi de répondre aux nouveaux enjeux du monde du travail.
Et je dois avoir du matériel ? Imaginons que je sois un particulier, j'offre quoi comme matériel arrivé sur place ? Parce que je dois laisser ma télé, des ordinateurs, enfin le mien enfin...
Alors nous, il faut savoir qu'on ne s'attend pas du tout à ce que les espaces soient équipés comme des bureaux. Hein. Au contraire, on espère avoir des environnements justement différents et aux antipodes des bureaux classiques. Donc généralement, vous avez déjà l'équipement qui va permettre les activités de nos professionnels qui vont venir. Après, il y a effectivement certains éléments clés, notamment des paperboards. C'est bien d'avoir une grande télé ou un vidéoprojecteur. Nous, on va être au départ, quand on va valider effectivement les espaces qui vont être propices et qui vont être publiés sur le site, on va pouvoir amener notamment des packs qui vont vous équiper pour ces besoins effectivement que vous n'avez pas auxquels vous n'avez pas forcément pensé en tant que particulier chez vous. Et on va vous avancer éventuellement ces dépenses-là pour les espaces éligibles qui vont du coup déclencher des réservations assez rapidement.
Mercedes Serra, notre coach.
Moi, j'adore cette idée parce que je trouve qu'elle rend bien compte d'une problématique qu'on a dans le travail, qui n'est pas simplement le fait qu'on est nomade et qu'on a besoin d'un espace de coworking, c'est qu'on a besoin d'ambiances différentes. On ne crée pas de la même façon. Vous êtes... moi, je suis très bien dans mon agence, elle est magnifique. Mais il y a des moments donnés, vous prenez les gens, vous les mettez ailleurs, et il se passe autre chose. Et ce que j'aime bien dans cette idée, c'est d'aller chez les gens et d'aller dans des univers un peu différents et qu'évidemment, vous n'équipez pas comme un bureau parce que sinon, autant rester dans le bureau.
Donc, ça je suscite trouve ça, autre chose.
Bah, bien sûr. En fait, on cherche quand même des endroits où on peut se couper parfois des téléphones, où on peut se couper des écrans, où il faut juste se poser pour réfléchir, pour trouver un vrai temps de parenthèse, parce qu'on devient tellement plus intelligent quand on a la force de perdre du temps à penser. Et donc ça, c'est des univers de pensée pour moi.
C'est tout à fait en ligne avec notre vision, et au-delà des prix qui défient toute concurrence, mais aussi de la flexibilité de ces espaces-là, ce qu'on met énormément en avant, nous, c'est l'humain. Et
bien
on pense
sûr.
Qu'aujourd'hui, on est un petit peu à la fin du bureau, en tout cas du bureau classique tel qu'on a pu le concevoir jusque-là. Et on pense que les espaces physiques dans le monde du travail doivent desservir des nouvelles fonctions. Et d'autant plus, du coup, ces espaces de vie vont être pertinents avec justement toute cette humanisation pour la créativité, les interactions, bâtir une culture d'entreprise, etc. Et ce que les pros et les entreprises recherchent, et on voit que c'est en pleine explosion, effectivement, chez nos clients.
Alors, lors des réunions, on parlait de ça tout à l'heure avec les petites gourdes d'eau. C'est vrai qu'on aime bien manger quand même. Malgré tout, on aime bien que ce soit ailleurs, mais on aime bien grignoter quelque chose ou avoir un service en plus. Est-ce que vous proposez ça,
c'est le clan des gourmandes.
Alors, effectivement, c'est ça. On dit qu'on propose des espaces personnels et on amène des services professionnels. Et on répond vraiment à toutes les attentes, avec tout le confort que les professionnels, les entreprises peuvent attendre sur ce type d'événement, de réunion. Exactement. Donc, on a créé en fait une marketplace permettant de faire appel à des artisans à proximité avec une charte responsable. On agit toujours en direct avec ces artisans qui viennent proposer de la restauration, des équipements, des activités. Ça peut être aussi l'hôte hein, directement qui vient proposer en tant que particulier des petits déjeuners, des boissons chaudes. On va vraiment sur du circuit court, donc on propose aussi cette possibilité-là.
Vous avez dit des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire ?
Alors, quand on recycle un espace, généralement, on va derrière avoir un coût d'opportunité très faible pour l'hôte. En tant que particulier, si vous abandonnez tous les jours votre appartement, vous n'allez pas faire grand-chose d'autre avec. Ce qui fait que finalement, les hôtes ont tout intérêt à avoir un prix finalement quand même intéressant pour les pros et les entreprises. D'autant qu'en plus, sur les pros et les entreprises, on va toucher des budgets qui sont supérieurs à Airbnb pour les touristes, par exemple. Et du coup, on va avoir une recette gagnante-gagnante. Et effectivement, pour les pros et les entreprises, on représente 50-70% des tarifs, des options traditionnelles à peu près. Donc c'est vraiment extrêmement en rupture par rapport en tout cas au modèle économique.
Et moi, j'offre mon appartement, enfin, je le mets en location, ça me rapporte combien ?
Alors,
enfin, je peux arriver
comme je disais,
à combien,
effectivement, ça part de 20 mètres carrés, on a des hôtels particuliers de 500 mètres carrés, c'est extrêmement variable. Mais pour un hôte particulier qui a une réservation, deux réservations par semaine, par exemple, il va rapidement pouvoir rembourser à peu près le loyer.
Bon,
pour donner un bon indicateur, donc ce qui est certainement plusieurs centaines d'euros, et ça peut être plusieurs milliers d'euros pour certains biens.
Et évidemment, il y a des garanties en cas de dégâts, ça s'appelle Office Riders. Merci beaucoup Florian d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1. Il est 12h58.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on va s'intéresser à nos modes de déplacement parce que demain, c'est jour de grève. On va vous trouver des solutions aujourd'hui sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Vous le savez, demain, les transports seront en grande partie paralysés par le mouvement de grève nationale et vous êtes nombreux à vous demander comment vous allez vous déplacer. Alors, on a choisi pour vous y aider des acteurs du secteur qui sont, ma foi, incontournables aujourd'hui. Bonjour Christelle Clerville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Caros. Je précise que ça s'écrit K-A-R-O-S pour ceux qui ne vous connaissent pas. Système de covoiturage intelligent spécialisé dans le trajet domicile-travail. Votre mission, c'est justement d'essayer de remplir les voitures qui circulent la ville. Ça, c'est tout le reste du temps. Mais demain, c'est une journée particulière. Racontez-moi comment a démarré peut-être d'abord l'aventure Caros. Les deux fondateurs ont eu l'idée d'une appli. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour que ça démarre ?
Alors, les deux fondateurs, donc Olivier Binet et Tristan Croiset, ont remarqué qu'en France, l'économie collaborative prenait beaucoup d'ampleur et que le covoiturage fonctionnait pour les week-ends ou pour les vacances. Donc, ils se sont dit qu'il fallait s'attaquer aux trajets les plus récurrents, les trajets qui finalement pèsent le plus sur les ménages français et qui polluent le plus aussi, les trajets domicile-travail.
Donc là, on est en 2014.
Exactement.
À l'intérieur de leur application, celle qu'ils inventent, il y a quoi ? Un algorithme qui calcule le temps qu'on va passer sur notre trajet et qui est éventuellement susceptible de nous emmener ?
C'est ça. En fait, l'algorithme calcule à la fois les points de départ et d'arrivée, les temps de parcours les plus probables pour chaque trajet. Et en fonction de ça, il est capable de matcher, d'associer les personnes les plus compatibles pour un trajet.
Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs propositions pour venir me récupérer à l'endroit où je me trouve.
Exactement. En fait, quand vous téléchargez l'application et que vous rentrez votre trajet quotidien dedans, au début, elle se base sur ce que vous avez expliqué pour vous proposer des gens. Et progressivement, elle apprend ce que vous faites réellement au quotidien. Et en fonction de ça, elle adapte les gens avec qui vous pouvez covoiturer.
Ça veut dire que si aujourd'hui je télécharge Caros, je vais avoir plusieurs propositions qui vont me correspondre pour demain, jour de grève par exemple ?
Tout à fait.
Vous avez tenté l'aventure ? Vous avez essayé de le faire ce matin ?
Oui, oui. Moi,
alors, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez des propositions ?
J'ai l'application et là j'ai deux personnes qui correspondent parfaitement à mon trajet. Au plus près de mon domicile et au plus près de mon travail, je vais être passagère demain et je vais covoiturer avec Boris.
Alors, que dit notre coach Mercedes Serra de l'application Carrosse?
Moi aussi, je vais pouvoir avec Boris demain. ça me
donc
paraît.
Boris passe chercher Mercedes et Boris.
Voilà. Non, bah, je trouve ça très efficace. Je voudrais comprendre, et très utile en fait, hein. Je voudrais comprendre quand vous dites on rapproche des gens qui sont plutôt affinitaires. Hein. Comment vous procédez?
Bah, en fait, on se dit que le covoiturage au quotidien, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Ça doit s'organiser très simplement et ça doit correspondre à la vie des gens. Donc on ne va pas demander à quelqu'un de marcher 15 minutes pour rejoindre un conducteur et on ne va pas demander à un conducteur de dévier de son itinéraire habituel. Les gens en voiture ne font pas forcément l'itinéraire le plus court. Ils ont des préférences, ils veulent passer à l'école, déposer leurs enfants. Et tout ça, l'application le voit, l'apprend et adapte les recommandations en fonction de ça.
D'accord. Incroyable.
Vous avez pas mal de partenariats aussi avec des collectivités, oui. En Ile-de-France bien sûr, à Troyes, à Toulouse. Par exemple, pour les détenteurs d'un pass Navigo, et ça va les intéresser parce que demain évidemment il n'y a pas de transport en commun ou très peu, on rentre à un numéro de passe et le covoiturage est gratuit dans la limite des 25 km et pour demain vous avez étendu la zone.
Oui, en fait on a un partenariat avec Ile-de-France Mobilité et donc les gens qui ont un pass Navigo sont dans l'absolu capables de faire 2 trajets par jour gratuits avec notre application. Et dans le cadre de la grève, les trajets deviennent gratuits pour tous les passagers sur l'Île-de-France. Le trajet peut aller jusqu'à 80 km.
Donc 40 km de son point de domicile ou de son point de travail.
Non, 80 km par trajet.
80 km par trajet.
Oui, pour être sûr de couvrir vraiment tous les besoins parce que le réseau va être...
Tous les gens qui ont un pass Navigo.
Tout le monde. En temps normal, c'est les détenteurs d'un pass Navigo. Et pendant la grève, tous les passagers inscrits sur Carrosse bénéficieront de 2 trajets gratuits.
Alors, justement, il y a Carrosse. Il y en a d'autres, évidemment, hein, sur ce même secteur du covoiturage domicile-travail.
Oui, il y en a d'autres. Et il y a aussi des entreprises qui, justement, qui adoptent des systèmes et des comportements plus vertueux en termes de mobilité et qui, donc, aident leurs salariés et proposent de nouveaux services. Alors, on incite, bien sûr, au covoiturage, hein, donc régulier, surtout. Il y a Klaxit, notamment, qui a lancé un pass de mobilité durable. C'est un compte prépayé, en fait, qui permet aux salariés de régler directement leur covoiturage. La société Anderaid aussi, qui a procéder à un ticket mobilité durable. Ça permet aux employeurs de verser à leurs salariés un forfait exonéré de cotisations sociales et fiscales pour eux. Avec ce pass, le salarié il peut payer la recharge de son véhicule de covoiturage, des voitures, des vélos, des trottinettes, des scooters en libre-service. Et l'autopartage, on voit bien qu'aussi, ça se développe énormément en entreprise. On met à disposition des collaborateurs, par exemple, une flotte de véhicules via l'intranet de l'entreprise, par exemple, ou une application spécifique. Et il y a des stations même d'autopartage privatif qui se mettent en place en libre service directement dans l'entreprise. On peut aussi bien en faire un usage professionnel. Le service est facturé directement à l'entreprise ou pour du privé. Et là, il y a des prix attractifs et c'est le salarié qui paye, bien entendu.
Vous avez justement aussi développé des partenariats avec
des
entreprises.
Oui, on travaille avec des entreprises. Effectivement, on a plus de 1100 sites qui proposent notre solution à leurs collaborateurs et ça représente à peu près 115 000 collaborateurs. Et on travaille avec les collectivités territoriales, comme on l'a déjà mentionné. Mais on a aussi un partenariat avec Leclerc, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, oui, qui fait que tout nouveau conducteur qui fait un premier covoiturage sur Carrosse se verra offrir une carte cadeau valable dans les magasins de l'enseigne.
Donc il y a un côté vraiment économie solidaire et collaborative.
C'est ça, on est dans une démarche vraiment pour favoriser une mobilité plus durable.
Et pour gagner votre argent, comment vous faites? C'est les partenariats qui vous...
Oui, en fait, on a un partenariat avec l'enseigne dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Les gens qui se lance dans le covoiturage avec notre application, bénéficie d'une carte cadeau.
D'accord, mais pour l'ensemble de
le
votre business model...
Le reste du temps. Qui paye
Alors en fait, nous on ne prend pas de commission sur les trajets entre les passagers et les conducteurs. Et c'est justement avec les contrats qu'on a avec des collectivités ou avec des entreprises qu'on est rémunéré.
On reste ensemble et on continue à vous aider à vous déplacer avant la grève de demain sur Europe 1. Il est 13h19.
Europe 1.
Et pour se déplacer demain, autre option, prendre un taxi. Une appli a eu l'idée de mettre en place des véhicules qui vont suivre le parcours du RER. À tout de suite.
Un dossier du jour consacré aux solutions de mobilité à la veille de la grève. On vous aide dans la France Bouge à trouver des solutions pour vous déplacer. Et vous, dites-nous justement quelles solutions vous avez trouvées pour vous rendre sur votre lieu de travail demain. Écrivez-nous, hashtag Europe 1, ou alors vous nous appelez au 3921, Raphaël.
Ouais, c'est vrai que demain s'annonce compliqué, hein, notamment pour les usagers des lignes RER en Ile-de-France. Alors, une appli a eu l'idée de suivre le tracé, de mettre des taxis à disposition des usagers. Bonjour Jean-Edard Rogagnou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Taxi Match, en un seul mot. Vous avez eu l'idée de créer une appli solidaire de covoiturage en taxi, c'est-à-dire de combiner finalement la technologie et le partage. Comment est-ce que vous est venue cette idée-là ?
Exactement, vous avez bien résumé. En fait, on a réuni les avantages du covoiturage, tels que la société BlaBlaCar, qui permet aux personnes de partager un trajet.
Ici, hein.
Exactement. Et la technologie des plateformes qui permettent de réserver des véhicules privés. L'idée, bah simplement, je pense que un peu comme toutes les personnes qui voyagent sont retrouvées en difficulté aux aéroports, aux gares, à pas trouver de moyens de transport pour rentrer chez eux ou rentrer chez elles. Un avion qui arrive un petit peu en retard, le bus, le transport en commun, c'est terminé. Donc, on a décidé de créer une application, puisque aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, c'est plus facile de discuter via une application mobile, via les réseaux sociaux, qu'en direct. On a l'impression de déranger, on se demande qui arrive. Donc on a créé une application pour permettre aux gens de se rencontrer et de partager des trajets similaires.
Alors l'appli, elle est sortie en 2018. Comment ça marche ? On entre son adresse et le lieu de destination ?
Il y a deux systèmes qui existent dans l'application. En fait, on a ouvert au départ dans le même principe que le covoiturage, les personnes peuvent mettre leur trajet ou recherchent un trajet. Et quand elles trouvent ce qui leur correspond, cliquent dessus, il y a une messagerie interne, on peut rentrer en contact avec l'autre personne. Et ensuite, on peut réserver un véhicule, un taxi, pour partager la course et le prix. Il y a une vraie division, et je souhaite le préciser, il y a une vraie division, on peut comparer par exemple à Uberpool, qui ne divise pas le prix par le nombre de passagers. C'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'une course qui va coûter...
Et qui n'est pas français.
Qui n'est pas français. Mais même au-delà de ça, si le service était bien, on pourrait dire c'est bien. Mais oui. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'une course aéroport qui va vous coûter 35 euros, par exemple, si vous êtes 3 personnes, vous faites 35 divisé par 3.
Donc là, c'est le système normal.
Exactement.
Mais demain, vous allez mettre quelque chose de particulier en place pour la grève.
Il y a un nouveau système, je ne sais pas si ça a déjà été réalisé, avec la collaboration des chauffeurs de taxi. Uniquement, je précise que ce sont des chauffeurs de taxi officiels, avec le signal sur le toit de la voiture. Ils sont facilement reconnaissables avec des magnétiques sur les côtés, Taxi Match. En fait, ça n'est pas venu au dernier moment pour la création, pour les grèves. On a décidé de mettre des lignes de taxi en place déjà la nuit pour les personnes qui sortent. Raphaël, on imagine que vous sortez une nuit un petit peu tardive.
Ne le dites pas, ne dévoilez pas ma vie.
Vous avez bu un verre de trop, bon, vous décidez, je ne vais pas prendre la voiture, j'ai prévu de ne pas la prendre, puisque ça peut être compliqué pour mon permis et l'accident. Pour les jeunes aujourd'hui, c'est quand même parfois compliqué de se déplacer pour rentrer chez soi. Alors, soit on a le porte-monnaie garni, à ce moment-là, pas de problème, on peut prendre un VTC, un taxi. Sinon, ben, on fait comment ? On prend un octilien. Enfin, c'est compliqué, surtout pour les femmes.
Donc aujourd'hui, ce service existe. Au départ, ça n'était pas pour la grève, mais là, ça va être utile parce que ça va suivre le tracé de certaines lignes de métro, de certaines lignes de RER. Comment est-ce que vous avez élaboré justement les arrêts ?
Alors, c'est pas très compliqué de se rendre compte des lignes saturées. Donc, on a pris les lignes saturées et on les a répétées en taxi, c'est-à-dire qu'on a choisi... Alors, on a un nombre de véhicules qui est limité, on a 500, on va pouvoir transporter environ 20 000 personnes. La bonne nouvelle, c'est que pour demain, il nous reste des places. Là, on a beaucoup de trajets qui sont réservés. Le principe, c'est que vous réservez un taxi, non pas dans son intégralité, mais une place, comme on réserve une place dans un train. Vous allez dans l'application, vous allez voir apparaître différentes lignes. On a recopié une partie du RER A, du RER C pour la partie Versailles, ici les Moulineaux, et les trajets aéroports également.
Qu'en dit notre coach Mercedes Serra ?
Bah là aussi, je trouve qu'il y a une vraie, c'est un vrai service, une vraie efficacité, et on va évidemment le voir demain, mais enfin, vous le voyez sûrement déjà, puisque vous remplissez très bien. Comment ça marche actuellement ?
Alors actuellement, pour réserver une place de taxi, vous allez dans l'application au niveau des transferts et vous verrez les lignes de taxi apparaître. Il y a un menu ligne de taxi. Vous voyez les différentes lignes qui sont proposées. Vous choisissez la ligne qui vous intéresse et l'horaire. On a des horaires qui sont prévus à l'avance, comme un train. Sauf que là, ils vont rouler.
Demain. Vous avez un trajet, quoi.
C'est ça, vous avez un trajet qui est défini. Et à la différence des lignes de RER, on va multiplier le nombre de stops. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de possibilités d'être pris en charge et de descente.
Dora,
au niveau de la prise en charge, ça se passe comment? Parce que j'imagine que si quelqu'un joue pas le jeu, s'il y a 25 arrêts, à la fin, on se retrouve à doubler notre temps de trajet. Les taxis, ils attendent ou faut vraiment être... Enfin, j'imagine qu'il y a une ponctualité à respecter.
Exactement, il y a une ponctualité à respecter. Il y a une quinzaine de possibilités de stop sur chaque ligne, sachant que tout le monde ne va pas souhaiter monter et descendre à chaque arrêt, puisque dans un van, on travaille avec beaucoup de vans, on a 7 places maximum. Donc sur les 7 personnes, il n'y aura que 7 arrêts maximum. Et ensuite, c'est vrai que si quelqu'un est en retard, « Ah, désolé, j'ai oublié de me lever, mon café était froid, j'ai dû le réchauffer », on ne va pas forcément l'attendre. Donc maximum, il va y avoir 2 minutes d'attente. Le chauffeur a le numéro de l'utilisateur ou de l'utilisatrice pour le joindre, pour savoir si c'est juste une erreur, je ne vous trouve pas, ou c'est « j'ai oublié de venir », etc. Pour ne pas pénaliser les autres passagers.
On reste ensemble, on continue à parler mobilité et on va continuer à aider les auditeurs d'Europe 1 à se déplacer demain. Il est 13h27.
Europe 1.
Et vous êtes peut-être en entreprise, vous allez découvrir ce qu'on appelle les flottes de vélos, de scooters et de trottinettes. C'est Starbolt notamment qui les a mises en place. À tout de suite. Demain, c'est la grève, une journée qui s'annonce compliquée pour se déplacer, se rendre au travail. Alors dans La France Bouge, on vous aide à trouver des solutions pour tenter de vous faciliter la vie. On attend d'ailleurs vos messages. Si vous avez vous-même une solution à nous soumettre ou une question pour nos invités, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors vous nous appelez au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël. Pour se déplacer demain, sans les transports en commun, une des autres options, c'est le deux-roues, vélo, trottinette électrique ou encore scooter. C'est ce que vous proposez aux entreprises. Edouard Adjar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Starbolt. Vous existez, je crois, depuis un an maintenant. Mais l'idée, vous l'avez eue bien avant avec Hugo. Je crois que c'était il y a 2 ans. Vous vous êtes rencontrés à l'EM Lyon. Et pour votre école, en fait, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes allé à Shanghai, vous êtes allé à New York. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, tous les pays n'avaient pas la même utilisation de ce qu'on appelle la mobilité.
Exactement. J'ai fait d'abord un premier parcours d'études en Chine, à Hangzhou, à côté de Shanghai. Et là, il y a une vraie surprise, c'est qu'on a, on a découvert qu'il y avait des milliers de scooters électriques qui étaient en circulation, alors qu'en France, c'était le balbutiement en fait, des véhicules électriques, des deux-roues électriques. Donc, il y avait un produit qui était au point, et ça depuis une dizaine d'années. Et ensuite, à New York, on a fait des ateliers, poursuite d'études, et des ateliers avec le MIT sur la ville de demain, sur comment serait la mobilité de demain. Et là, il y a eu un autre déclic, c'est que la mobilité sera plutôt sur de la propriété, mais beaucoup plus sur de l'usage, la mobilité comme un service. Et on est rentré en France et on a avec ces deux prismes, en fait, un prisme produit en Chine et un prisme beaucoup plus service aux États-Unis. Et on a un peu mixé ça et voir comment on pouvait l'adapter à un modèle français et surtout au modèle des entreprises.
Le principe, justement, pour l'entreprise, c'est quoi? C'est un abonnement par l'entreprise au service des salariés?
Exactement. Alors, en fait, l'entreprise s'abonne à notre service. Nous, on va mettre à disposition nos véhicules électriques, donc scooter électrique, vélo électrique et trottinette électrique.
Vous les installez, c'est ça?
Exactement. Les véhicules sont floqués, brandés à l'entreprise. Par exemple, Europe 1 pourrait avoir une flotte de 50 vélos électriques brandés Europe 1. Et en fait, on a réfléchi sur deux aspects pour que ce soit très simple pour le chef d'entreprise de mettre ça en place. Donc, on a packagé un peu cette mobilité avec du véhicule, de l'assurance, un service de maintenance ou de l'assistance et de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'une personne peut venir mensuellement réparer les véhicules, les nettoyer, etc. Et tout ça par abonnement. Et on a aussi réfléchi du point de vue utilisateur, donc le collaborateur, pour que ce soit très simple pour lui d'accéder à cette flotte dans son entreprise. Donc, il y a une application qui permet, par exemple, à vous de réserver votre véhicule pour un rendez-vous client de 10h à 11h et ensuite de descendre du bâtiment, d'aller vers le véhicule et de le déverrouiller avec un QR code.
Donc le salarié entre simplement le code de l'entreprise pour pouvoir procéder à toutes ces manipulations, aux réservations par exemple?
Exactement.
Mercedes, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense là aussi que du bien. Et vous en êtes où? C'était dans les partenariats? Comment ça se passe? Comment les entreprises réagissent?
Alors, d'un point de vue, l'entreprise, ça fait depuis un an qu'elle a été lancée. On est une équipe de 5 maintenant. Donc là, on a eu une grande période de construction d'un produit qui puisse être mis à disposition, de partenariat avec des financeurs, des assureurs, un service de maintenance. Et aujourd'hui, on le met en place aussi bien sur des sièges sociaux de 200 personnes. Par exemple, là, on est, aujourd'hui, on installe une flotte de vélos électriques chez Back Market à disposition des 200 collaborateurs. Aussi bien, il y a aussi le créneau de l'immobilier chez qui on se développe beaucoup pour les agences immobilières qui sont amenées à beaucoup se déplacer sur leur temps de travail.
Vous pouvez installer du jour au lendemain comme ça, c'est-à-dire qu'une entreprise peut vous appeler aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre à disposition votre flotte demain, par exemple, pour la journée de grève?
Alors, deux choses. Aujourd'hui, il y a un mois de livraison pour une flotte qui soit brandée au nom de l'entreprise, etc. Mais sauf que pour la grève, aujourd'hui, demain, on sera chez Capital 8, qui est un grand site, c'est 45 000 m² de bureaux à côté du parc Conso. Et là, on va mettre à disposition une autre flotte personnelle Starbolt pour tous les usagers, pour qu'ils puissent utiliser ça sur leur temps de travail, pour leur rendez-vous, même pour rentrer chez eux. Il y a Doctolib qui pourra, par exemple, en bénéficier sur ce site-là.
Dora, il y a aussi les entreprises, puisqu'on est en train de parler des entreprises, qui aident les collectivités à mieux gérer tout ce qu'on appelle ces formes nouvelles de mobilité.
Oui, car les collectivités doivent s'adapter. C'est un nouveau marché, ça va très vite. Et les start-up comme la vôtre, elles inventent des choses et puis elles sont un peu à la traîne parfois. Des start-up comme Urban Rider ou Vianova, par exemple, qui aident les villes à mieux comprendre ce qui se passe sur leur territoire, justement grâce aux données des opérateurs de vélos, de trottinettes, pour connaître les besoins, en fait, et localiser où sont les vélos, tous les engins, et les temps d'usage aussi, voir comment on se comporte, le parking aussi, les temps d'usage de parking. Et du coup, ça leur permet de prendre les bonnes décisions d'aménagement, mais aussi mieux réguler, voir aussi si les opérateurs, justement, ils remplissent leurs engagements. C'est une façon aussi de les surveiller, bien sûr. Et ça donne aussi des infos. Les villes peuvent communiquer un changement de circulation, une manifestation qui impacterait le trafic, par exemple. Donc, ça permet une meilleure gestion.
Alors, on est en ville. Il y a aussi, évidemment, tout un tas de problèmes qui se posent quand on est à la campagne et qu'il y a un mouvement de grève comme celui de demain et qu'on ne peut pas prendre les transports en commun. Est-ce qu'il y a des solutions pour les ruraux ?
Pour les ruraux, oui, il existe, par exemple, Atchoum. Alors, Atchoum, comme à vos souhaits, à vos souhaits de mobilité, par exemple. Et on vous en avait parlé, d'ailleurs, cet été, Raphaël.
Dans la France des
solutions. Vous qui en aviez parlé dans la France des solutions. Et cette entreprise, elle offre un service de transport solidaire aux ruraux, justement, grâce au covoiturage. Elle propose aux communes des abonnements qui donnent accès à leur site internet, à l'application mobile, mais aussi et surtout à un service téléphonique. Et c'est là le vrai plus, parce que c'est accessible aux personnes âgées. Alors, ils mettent en relation des conducteurs, bien sûr, et des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de se déplacer dans cette même zone. Ça coûte à partir de 50 € par mois pour les communes, 2000 habitants, et la mairie, elle peut justement répondre aux besoins de déplacement de ses résidents.
On reste ensemble et on continue à parler mobilité aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 36.
Europe 1.
Et on vous attend, vos questions et aussi vos suggestions, pourquoi pas, au 3921 et sur Twitter. C'est la France qui bouge.
Il est 13h36.
Dans la France bouge cet après-midi, à la veille de la grève, on s'intéresse aux solutions de mobilité avec vos invités, Raphaël Duchemin. Nous sommes avec Christelle Clerville, directrice générale de Carros, Jean-Éderne Rougagnou, fondateur de Taximatch, et Édouard Adjé, cofondateur de Starbolt. Notre coach aujourd'hui, c'est Mercedes Serra, cofondatrice de l'agence BETC, présidente exécutive d'Avas Worldwide. Et bien sûr, à mes côtés, Dora Nana, pour nous éclairer sur le trajet domicile-travail, parce que c'est évidemment celui qu'on fait le plus. Qu'est-ce que ça donne? Qu'en pensent les Français de ce trajet domicile-travail, dites-moi?
Alors, il y a un peu moins de la moitié des actifs qui pensent que leur trajet professionnel a un impact positif sur leur qualité de vie. Moi, j'étais assez étonnée, mais parmi les avantages cités, arrive en tête le moment de confort. Bon, l'occasion de faire de l'exercice, ah oui, ou échanger avec d'autres. Pourquoi pas? Ou prendre du temps pour soi. Donc c'est une façon, en gros, de décompresser un peu avant d'arriver chez soi. Mais quand même, il y a 14% qui pensent à un impact négatif. Je pense que c'est surtout ceux qui habitent en Ile-de-France, parce que perte de temps, plus de 60%, ils considèrent qu'ils sont stressés et c'est lié au monde. Le manque de ponctualité aussi, et puis revient quand même le manque de confort.
Dites-moi, on a des chiffres précis sur le temps qu'on passe, par exemple, dans ces trajets domicile-travail?
Oui, alors c'est des temps de trajet tout confondus. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Île-de-France, il y a toute région confondue. Donc on voit qu'en moyenne, les Français, ils passent 23 minutes et font 18 km entre leur domicile et leur travail. Alors bien sûr, comme je le disais, ça varie selon les régions. Et plus de 70% des Français utilisent la voiture pour se rendre au travail. 22% de l'électrique ou de l'hybride. Alors il y a un tiers qui s'y rend à pied et à peu près un tiers qui y va en transport en commun et 14% seulement pour le vélo. Et bien sûr, ils utilisent aussi les solutions proposées par leur leur entreprise, comme on le disait, pour améliorer leur qualité de vie au travail. Alors, la moitié des actifs ont des remboursements partiels ou total des transports ou des frais kilométriques. Là, il y a de fortes attentes sur les frais kilométriques. Un petit peu moins sur les véhicules de fonction, pourtant beaucoup en rêve. Hein, et 6% seulement pour le covoiturage. Pourtant, visiblement, les gens sont en attente.
Mercedes Serra.
C'est quand même aujourd'hui un des vrais enjeux. Hein. Moi, je sais que quand on a déménagé l'agence, on est allé de Paris à Pantin. Franchement, une des difficultés des gens, c'était le quart d'heure de plus. Hein. Donc, c'était pas, on n'était pas passé sur des chiffres incroyables, mais un quart d'heure de plus, on l'a longtemps vécu comme une difficulté. Donc, je pense que le monde est assez différent en France, hein, entre la province et les zones métropoles, et particulièrement Paris. Paris, c'est dur comme... C'est moins dur que Londres, mais c'est dur quand même. Hein. Donc, il y a des vrais enjeux là qui se soulèvent et des recherches de solutions différentes.
Justement, c'est la même chose quand on est à Paris et qu'on fait du covoiturage qu'à Rennes, à Troyes ou à Lille, Christelle ?
Alors, ce qui se passe, c'est que nous, quand on propose des trajets aux gens, les trajets en Île-de-France sont très souvent intermodaux. Et donc, on fait gagner du temps aux passagers, parce qu'ils vont faire une portion de trajet en voiture et ensuite terminer sur une ligne de RER ou de métro, par exemple. Donc, si vous êtes à Pantin, on aurait très bien pu compléter le trajet comme ça et faire gagner du temps à vos collaborateurs.
Mais on va en parler. Hein.
Ouais, par contre, quand on est en région, c'est vrai que là, les gens sont beaucoup plus dépendants de leur voiture et ils n'envisagent pas très souvent de la laisser. Donc, pour encourager au covoiturage malgré tout, on a mis en place des solutions qui permettent de faire deux conducteurs de voitures se rencontrer sur une aire de covoiturage et partir ensemble dans le même véhicule. Et c'est ça qui favorise le covoiturage dans les zones plutôt rurales, en fait.
Justement, Edouard, aujourd'hui, vous voyez la différence entre la région parisienne et, on va dire, les autres grandes villes de France, ou est-ce qu'on consomme justement des flottes de véhicules électriques de la même manière ?
Alors nous, c'est pour ça qu'on a construit une flotte multimodale, c'est-à-dire qu'on a des trottinettes électriques qui vont être adaptées pour du déplacement entre 0 et 1 km, 1 km 5, du vélo pour du 2 km à 5 km et du scooter électrique pour de la plus grande distance. Donc en fait, c'est vraiment au collaborateur, en fonction de son trajet, d'adapter sa mobilité avec le bon véhicule. En termes de région, aujourd'hui, nos clients sont beaucoup plus à Paris, donc on a plus de visibilité sur Paris.
Même question pour vous, Jean Hédarne. Vous avez le sentiment que ce qui est valable à Paris, par exemple avec TaxiMatch, l'est aussi sur d'autres agglomérations ?
Je pense qu'il faut vraiment considérer les agglomérations et les petites villes différemment. C'est-à-dire que...
Faire du sur-mesure, finalement.
Dans Paris, par exemple, vous avez la moitié des Parisiens qui n'ont pas de véhicule. Donc, ils vont pouvoir utiliser plein de solutions. Les transports en commun, notamment... les trottinettes, les scooters, le covoiturage. En jour de grève, il n'y a plus de transport en commun. Donc les Parisiens sont réellement impactés. Et je souhaite dire, je veux faire un petit rappel entre la différence, l'économie collaborative, oui, dont on parle, le partage, la mise à disposition de véhicules, et l'économie punitive. L'économie punitive, c'est le VTC. Pourquoi le VTC ? Parce que dans un cas, ouais, vous avez...
C'est un choix aussi. Hein.
Non, je vous explique la différence.
Oui, non, mais on peut choisir de circuler en VTC.
Non, mais je parle du principe... On peut décider de prendre un VTC, mais je parle du principe du fonctionnement et de l'économie du VTC. C'est dans un cas, vous avez le chauffeur qui survit. Quand vous avez des tarifs très bas, le client est content. Et dans l'autre cas, en cas de grève, le chauffeur, je ne sais pas comment il va toucher, mais le client, lui, il est pris pour une vache à lait.
Ah donc, oui, parce que les tarifs sont majorés.
Parce que les tarifs sont majorés, on a encore eu le rappel.
On précise, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, et il était en direct avec nous ce matin sur l'antenne d'Europe 1, qu'effectivement, normalement, on ne doit pas majorer, en tout cas, c'est ce que le gouvernement a demandé aux plateformes de VTC. Malheureusement, certaines plateformes ont quand même décidé de continuer à majorer les tarifs.
Mais parce qu'ils n'ont... Il faut dire quand même que ce qui leur importe, c'est de faire de l'argent, peu importe les conditions de transport, peu importe le prix. Et j'aimerais que les Français se rappellent, lorsque tout va bien, qu'ils puissent compter sur notamment les taxis ou les plateformes de collaboratives telles que le covoiturage ou le partage de trottinettes, de scooters. Il y a des moments où il faut savoir boycotter un service qui vous prend pour une vache à lait, tout simplement.
C'est votre opinion. Après, les Français jugent effectivement, et je pense qu'ils sont suffisamment grands pour savoir faire la différence non, entre les collaboratifs. Tout à fait.
C'est bien d'exprimer ses opinions.
Exactement.
Parce qu'il faut regarder. En fait, tout le monde nous parle de regarder aujourd'hui l'ensemble de la chaîne, ce que touchent les uns, ce que gagnent les autres, ce que l'on paye. Je trouve que ça a du sens de se poser les questions.
Et c'est pas contre les chauffeurs qui peuvent faire du bon travail, ils y sont pour rien. C'est le modèle économique qui est punitif.
C'est pour ça que c'est bien de le préciser, vous avez raison. Et je précise aussi que le plan du gouvernement, justement, en matière de transport, est attendu d'ici la fin de la journée pour nous aider justement à circuler. On verra ce que ça donne d'ici la fin de l'après-midi. On en parlera bien sûr avec Nathalie Lévy ce soir dans le 18-20 sur Europe 1. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à vous.
13h46. Europe 1. Restez avec nous, elle est née après-guerre en Haute-Savoie, fait travailler plus de 5000 éleveurs entre monts. Et dans un instant, l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Entremont. Bonjour Olivier Timon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Entremont. Entremont, c'est une maison qui date d'après-guerre, hein, qui porte encore d'ailleurs le nom de ses fondateurs, les frères Entremont. Ils étaient trois. C'est né à Annecy.
C'est né en 1948. Effectivement, ces trois frères, c'était Édouard, Marius et François.
Trois passionnés. L'emmental.
Exactement, qui allaient récolter, qui récoltait donc les meules des fermiers dans les alpages.
Moi, j'avais inventé un... Je croyais que le nom voulait dire entre des monts.
Ah. Ouais. Non, c'était
leur nom.
C'était leur nom familial. C'était une entreprise familiale au
un
début.
Un nom magique, alors.
Un nom magique, ah. c'est Entremont Bon. Oh. Hein, y a un nom qui sonne très bien.
Et surtout, c'est avec tellement la montagne que...
Dans l'imaginaire. Ah bah, les racines de cette marque, effectivement, elles sont à Annecy, elles sont dans les alpages, et c'est un savoir-faire, non seulement sur la fabrication du fromage, mais sur l'affinage fromage qui est particulier.
Puis dites-moi, ils sont précurseurs, parce qu'ils ont compris qu'ils allaient pouvoir aller chercher ces meules dans les alpages, et qu'ils allaient pouvoir les redescendre jusqu'aux caves, et ils ont lancé finalement l'activité.
Ils ont lancé l'activité, et ils ont surfé sur un fromage qui se consommait beaucoup avant le dessert, comme beaucoup de fromages, et qui maintenant, en fait, se consomme aussi bien au petit-déjeuner pour les écoliers que pour les sportifs avant qu'ils s'entraînent, en râpé, en ingrédients culinaires, mais de plus en plus dans les hamburgers aussi maintenant. Hein, il y a de célèbres marques qui le reprennent.
Diverses formes. Ouais. L'activité s'est développée. Ils ont, par exemple, lancé les fromages pré-emballés dans les années 70. Pour la première fois, ils sont apparus à la télé en 83. Et alors, ça va plaire à Mercedes, évidemment. Le slogan qui arrive l'année d'après, Autrement bon, évidemment. Entremont, c'est autrement bon. Ça a marqué les Français.
Oui, et ça marque toujours les Français. Et ça nous a permis, de quelque part, d'exporter ce savoir-faire fromager sur d'autres types de fromages, hein, et de pouvoir justement faire bénéficier à nos consommateurs.
C'est-à-dire que vous avez élargi la marque
On ne fait pas que de l'emmental.
Oui,
on fait aussi du comté.
21 AOP aujourd'hui, c'est 20, ça.
Et on distribue 21 AOP fabriqués effectivement par nos éleveurs adhérents. Parce que depuis, donc, les trois frères ont cédé quelque part leur entreprise. Ils ont eu des problèmes économiques au début des années 2010. Il y avait quand même 5000 producteurs qui fournissaient leur lait aux usines Entremont. Et pour ne pas laisser ces 5000 producteurs sur le carreau, l'entreprise a été reprise par une coopérative. Et maintenant, cette marque, les outils, appartiennent à une coopérative.
Le groupe social.
Et appartient au groupe social, appartient en fait, mais cette marque appartient à ses éleveurs.
Ouais, qui est la première coopérative laitière française, hein, faut le rappeler.
Oui, et qui a une mission noble, c'est de ne pas laisser un seul éleveur sur le carreau et de récupérer le lait de tous ces éleveurs afin d'y créer un maximum de valeur ajoutée, notamment par la marque Entremont.
Alors vous le disiez, du lait français, 100% français,
ah oui.
160 000 tonnes de fromage.
Oui.
Comment est-ce que vous arrivez dans l'aventure ?
Comment est-ce que j'arrive dans cette aventure-là ? Déjà, pas par passion. Au-delà du fromage, ce qui m'a beaucoup animé, moi, c'était l'esprit coopératif. Parce que je trouve que ça a du sens de travailler pour des éleveurs. Je réponds quelque part dans ma mission à un conseil d'administration qui est composé d'un président qui est éleveur et de 24 éleveurs. Et quelque part, mon impératif n'est pas seulement de dégager un maximum de bénéfices, même si nous redistribuons 2/3 des bénéfices à nos éleveurs, nous en gardons 1/3 pour nos outils, mais l'impératif, c'est aussi de travailler dans la pérennité. Parce que nos adhérents, nos éleveurs, ils vont transmettre demain leur exploitation. Et ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 30 ans. Et ils tiennent absolument à ce que leurs enfants, ou s'ils le revendent leur part à un autre GAEC, ils tiennent absolument à ce que, quelque part, le débouché de leur lait se pérennise. Donc ça a du sens de travailler pour une coopérative.
Aujourd'hui, Entremont, c'est une marque française, oui. Mais c'est aussi une marque qui s'exporte bien.
Oui, oui, oui. C'est une marque qui s'exporte autour de la couronne française, hein, et puis on surfe sur d'autres fromages qui commencent à percer, qui sont de plus en plus saisonniers,
les
y compris à l'export.
Tendances.
La raclette, par exemple. Le petit coup de froid de maintenant me va très bien, hein, pour relancer la saison de la raclette. Et c'est, par exemple, la raclette commence à s'internationaliser de plus en plus. C'était une spécialité française à la base et qui se développe de plus en plus.
La suite, c'est quoi? Vous allez travailler, par exemple, sur les emballages, puisque vous êtes en proximité avec les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, mais même quelque part la préservation de notre planète. Et les emballages, c'est un gros enjeu. La collecte du lait aussi, c'est un gros enjeu. Hein, essayer de travailler une collecte du lait, la fameuse route du lait, qui est notre dispositif de collecte du lait, de traçabilité, en essayant de travailler demain avec des méthaniseurs de nos éleveurs pour faire rouler nos camions. Donc toute cette économie circulaire, c'est un des enjeux d'Entremont, c'est l'enjeu de la pérennité, quelque part, dont je vous parlais tout à l'heure.
Et c'est l'enjeu qui doit tous nous animer. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Entremont. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Mercedes Serra, qui était notre coach aujourd'hui. Merci à Dora, qui était avec nous. Céline, nous, on se dit à demain, évidemment.
Avec grand plaisir. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1.